BFM Bourse, le club de la bourse.
Et on évoquait aussi tout à l'heure avec John Plassard la plupart des institutionnels américains qui révisent à la hausse sans cesse leurs objectifs sur les indices US, sur Wall Street, à mesure que ces indices battent des records. On en parlait, ils nous faisaient part d'ailleurs des derniers objectifs des grands institutionnels américains sur la bourse américaine pour cette année 2024. Si vous avez raté le direct, c'était à 15h30 dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. N'hésitez pas à le consulter sur notre application BFM Business. Et nous aussi, on va mesurer le potentiel des marchés. Avec Alain Dubrul, bonsoir Alain, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Directeur général délégué, je parle trop vite, de Claresco. Marie de Lessac aussi nous accompagne. Bonsoir Marie.
Bonjour Guillaume.
Gérante allocataire d'Edmond Rothschild Asset Management. Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. Ça va peut-être un peu moins mal que ce qu'on craignait vendredi soir. La semaine dernière, la bourse parisienne, la bourse française a beaucoup souffert, moins 6% sur le CAC 40. Bah, depuis hier, on remonte peu à peu la pente. Alors ça reste à confirmer, on est bien d'accord, on est sans doute fragile. Mais enfin, on sent aussi une temporisation sur le marché obligataire. Étienne nous le disait, le 10 ans français recule à 3,09. On est au même niveau qu'avant la dissolution, Marie. Et l'écart de taux avec l'Allemagne se réduit un tout petit peu. On est à 69 points. Donc on n'est pas sur la même fièvre que la semaine dernière. Comment est-ce que vous l'interprétez ?
En fait, la semaine dernière, on a vraiment connu un mouvement d'aversion au risque assez marqué, hein, parce que cette dissolution était vraiment surprise. Si les résultats des élections européennes dans leur globalité étaient assez attendus, avec effectivement cette montée de la droite au Parlement, il n'en reste pas moins qu'au Parlement européen, le centre droit conserve la majorité. Donc c'est vraiment la situation française qui a surpris les marchés. Et on a vu le point d'orgue de cette aversion au risque vendredi dernier, hein, sur les marchés français, avec effectivement une forte baisse du CAC 40 entre autres, et un écartement des spreads, des écarts entre les obligations françaises à 10 ans, les taux allemands montaient à des niveaux des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. C'est normal qu'après un mouvement d'aversion au risque comme ça, on ait une légère stabilisation. Ça ne veut pas pour autant dire que tous les problèmes sont réglés. Selon nous, on va quand même continuer à avoir de la volatilité à minima jusqu'aux élections. Première échéance. Et deuxième échéance ensuite, ça sera le vote du budget fin septembre, octobre. La deuxième échéance dépendra des résultats des élections, bien évidemment, mais entre-temps, on pourra continuer, on pense, à avoir quand même de la volatilité sur tout ce qui est actif français, surtout sur le prix de la dette française, puisque c'est quand même sur ce pilier-là que l'aversion au risque se fait ressentir le plus.
Et comment est-ce que vous interprétez le fait que, même la semaine dernière, l'écart de taux avec l'Allemagne, certes, s'est accru, mais jamais le 10 ans français n'a véritablement flambé. Comment est-ce que ça, vous l'interprétez ? Il y a une forme, malgré tout, de complaisance, en tout cas, encore de bienveillance du marché vis-à-vis de la France. Enfin, c'est ce qu'on sent malgré tout encore en filigrane, même si le marché est en alerte, on est d'accord.
Alors, le marché est en alerte, mais ça vient aussi du fait que on a eu un vrai mouvement d'aversion au risque, ce qui fait que l'investisseur se retrouve sur tout ce qui est actif sans risque, et donc principalement les taux d'intérêt, les actifs obligataires gouvernementaux. Donc il y a quand même dans l'esprit des investisseurs cette idée que les taux gouvernementaux sont des actifs sans risque. Alors pour le coup, ça ne s'est pas matérialisé justement sur les obligations françaises, puisque le taux n'a pas baissé, il est resté stable, ce qui est déjà bien finalement pour la France dans ce contexte politique agité. Mais à l'inverse, sur les taux allemands, on a eu des baisses jusqu'à 25 ou 30 BP. Donc on voit bien qu'en fait, c'est vraiment cette aversion au risque qu'on n'avait pas connue depuis un certain temps, en fait. Hein, ce mouvement de corrélation avec des taux qui baissent et des marchés actions qui baissent, c'était quelque chose...
Il y a eu un fly to quality, on appelle ça comme ça, pendant la crise des dettes.
Quelque chose qu'on n'avait plus vu
depuis
un certain temps. Depuis, en fait, le dernier gros mouvement de fly to quality qu'on avait connu, c'était au moment de la crise bancaire en mars l'année dernière aux États-Unis finalement. Donc c'est vraiment ça qu'on a connu la semaine dernière.
Alain, comment est-ce que vous situez le marché là aujourd'hui vis-à-vis de la France ? Il est sévère, réaliste, encore complaisant ? Est-ce que vous estimez que la temporisation depuis hier sur les marchés n'est qu'une pause, ou que c'est le signe finalement, il n'y a pas d'inquiétude si fondamentale que ça ? Enfin, comment est-ce que vous regardez le truc ?
Le rebond reste fragile à ce stade. Oui. Je pense qu'il faut bien comprendre, à mon avis, hein, c'est qu'en début de semaine, la dissolution a évidemment été un choc, mais il y a deux scénarios a priori, enfin, disons, un scénario de statu quo où on aurait un gouvernement qui serait à peu près le même qu'aujourd'hui, ou une sorte de front républicain qui irait des socialistes jusqu'à LR, globalement, il n'y aurait pas beaucoup de changements. C'est malheureusement peut-être pas le scénario principal, mais a priori, ça serait non-event. Maintenant, s'il y a un scénario qui inclut les extrêmes, il faut bien voir que d'un côté, on a le Rassemblement National et on a un peu une situation en Italie où, qui a un petit peu détendu les marchés. En plus, on a un Rassemblement National qui est en quête de respectabilité, qui, si le président lui donne sa chance cette fois-ci, aura pour ambition d'être réélu dans 2-3 ans. Donc, on peut s'imaginer qu'ils vont y aller plutôt plutôt mollo par rapport à ce qu'ils disent.
Ce qui est le sentiment qu'ils donnent sur les mesures économiques.
D'ailleurs, les derniers jours ne font que le confirmer. À la limite, ils disent même qu'ils ne veulent pas être Premier ministre, ils n'ont pas la majorité, ce qui paraît étonnant. Mais voilà, en tout cas, ça veut dire qu'une sorte de gouvernement de coalition ou un RN dont le programme fait peur, mais dont la réalité du programme pourrait être un peu plus soft. Le début de semaine dernière, c'était ça un peu le schéma. En plus, aidé par les bons chiffres américains sur l'inflation, qui fait que tous les marchés avaient monté, donc nous, on ne s'était pas rendu compte. Et quand on parle de la dette, il faut bien voir le spread de dette par rapport à l'Allemagne. On est revenu au niveau d'avant la dissolution, mais l'écart avec l'Allemagne, lui, il ne s'est pas détendu. On est toujours à 70 bips. C'est ça qu'il faut regarder en termes de perception du risque. Donc moi, je pense qu'il a mis le feu aux poudres, c'est plutôt l'union inattendue par certains des forces de gauche en fin de semaine dernière, et surtout le programme qui est, enfin, d'un point de vue économique, est absolument cataclysmique. Alors j'imagine qu'un certain nombre d'acteurs...
Mais pire que celui du RN, non mais voilà,
de très, très loin,
dans le musée des horreurs.
Mais il n'y a même pas photo, ça c'est épouvantable. On n'a jamais vu ça. Alors évidemment, beaucoup de gens pensent qu'il est parfaitement inapplicable, et qu'en réalité, toute la coalition ne va pas soutenir le programme de LFI, puisque ça ressemble plus à un programme LFI qu'à un programme de centre-gauche. Et en même temps, le besoin de faire front...
Dedans, il y a la sortie du pacte budgétaire, hein, par exemple, vraiment des trucs très...
C'est pas le Venezuela, mais si jamais on a un Premier ministre LFI dans 15 jours, là, c'est incotable. On est à moins 20, moins 30, c'est sauf qui peut, c'est épouvantable. Et donc, Alors, quand on est en France, on se rend bien compte qu'il y a un petit peu de... Comment dirais-je? Que c'est un peu de la gesticulation, que si François Hollande rejoint cet attelage, il n'est pas forcément d'accord avec l'autre parti. Et puis, on peut imaginer aussi que la NUPES, de mon point de vue, elle va exploser dès le lendemain des élections. Donc, ça ne veut pas dire qu'une partie de la NUPES ne pourrait pas
rejoindre
se rejoindre
républicain
sur un gouvernement plus, éventuel, entre guillemets, républicain.
Entre guillemets, oui.
Mais, en tout cas, vu des États-Unis, ce programme NUPES, ça fait une image... Pour l'image de la France, c'est effrayant. Parce qu'une France où, depuis 7 ans, où Macron dit « venez en France », les boîtes américaines viennent, « investissez en France », pas « invest in France » tout récemment, et puis sortir ce truc-là, même si évidemment c'est beaucoup de gesticulation, je pense que c'est ça qui a fait peur au marché. Et donc on voit des flux sortants des pays anglo-saxons en particulier, sur toutes les classes d'actifs françaises. Et ça, je ne suis pas persuadé que c'est complètement terminé. Maintenant, chez les domestiques, qui sont un peu plus réalistes et qui voient qu'il y a un peu de cirque dans tout ça, on se dit que probablement le scénario central, c'est pas LFI au pouvoir. Et donc là, je pense que les Français ou les gens qui comprennent mieux la situation commencent à racheter un petit peu parce qu'il y a eu des baisses fortes. Il faut quand même rester prudent par rapport à la sortie. Mais globalement, nous, Claresco, on ne capitule pas sur les actions françaises parce qu'on pense que globalement, entre les programmes effrayants en apparence et la réalité du pouvoir, il y aura quand même un gros écart. En particulier si c'est un gouvernement plutôt à droite.
Oui. Est-ce que vous partagez, Marie, ce sentiment que le marché, dans son inconscient, s'il en a un, imagine effectivement des scénarios médians pouvoir, malgré tout, finir par émerger, qui permettra à la France de ne pas sortir totalement économiquement, on va dire, de ne pas sortir totalement de la route européenne, quoi.
Alors, si on cherche des scénarios peut-être plausibles qui seraient un moindre mal, c'est finalement peut-être le scénario de... presque pas de majorité ou que des majorités relatives, et donc besoin vraiment de coalition pour faire passer des mesures, ce qui diminuerait les effets négatifs des mesures, que ce soit de la droite ou de la gauche. Et donc, effectivement, ça pourrait, dans un premier temps, satisfaire les marchés. Avoir effectivement le deuxième temps et au moment de la négociation du budget, parce que ça sera quand même difficile, parce que les deux forces... qui ont pour l'instant le plus d'intention de vote dans les sondages, n'ont aucune intention de diminuer les dépenses fiscales. La France, on a quand même eu quelques alertes, hein, sur, que ce soit sur la notation de la France ces derniers temps. On a besoin de diminuer les dépenses fiscales ou d'augmenter éventuellement les recettes pour diminuer le déficit budgétaire. Et ça, effectivement, ça n'en prend pas le chemin, quel que soit finalement le côté qui l'emporte ou qui arrive à obtenir une majorité relative dans deux semaines. Et donc effectivement, là, la France, elle est quand même potentiellement sous la procédure de l'Union européenne. Hein, pour, oui.
Demain, la Commission européenne pourrait annoncer une procédure pour déficit excessif.
Exactement.
Qui pourrait ne pas coûter très cher, mais enfin, le symbole serait très, très... Parce qu'il faut le dire aussi, les finances publiques se sont quand même bien dégradées.
Voilà,
le Covid, mais le Covid aussi a touché les Allemands. Enfin, il a touché tout le monde, le Covid.
Voilà, ça n'a jamais été appliqué dans les faits, hein, l'amende pour déficit excessif. Bon. Peut-être que ça ne le sera pas encore cette fois-ci, mais voilà, pour la France quand même, effectivement, ça mérite potentiellement peut-être des taux un peu plus élevés ou des écarts avec les taux allemands un peu plus élevés. Nous, on regarde un peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé chez les voisins, notamment en Italie, effectivement. Hein. On a eu effectivement des écartements de spread et puis ensuite ça s'est plutôt resserré. Mais là où on en est aujourd'hui, si on a de nouveau une vague d'inquiétude, on peut avoir potentiellement encore et aller vers des spreads un peu plus élevés.
C'est quoi la ligne de douleur, quoi, le niveau de douleur, le seuil de douleur pour les spreads? On est à 69 points là, d'écart entre la France et l'Allemagne. C'est quoi le vrai seuil de douleur?
Disons que si on prend les dernières années, on a, sans aller dans des grandes crises, il y a des moments où on était à 100-120 bip. Mais en fait, un des points aussi qui, je pense, font que ce n'est pas la panique, c'est que on est quand même très avancé dans une forme d'intégration européenne. On voit même l'ERN aujourd'hui a renoncé à ses thèses historiques de sortie de l'euro, voire sortie de l'Europe. Ils ont bien compris que même l'Italie, que maintenant on est quand même, il y a des bénéfices dans l'Europe. Et je dirais que quelque part, notre assurance vie, c'est ce qu'on pourrait appeler le moment Liz Truss. C'est-à-dire qu'en Angleterre, quand la première ministre, pourtant conservatrice, a proposé un budget irréaliste, ou en tout cas avec une expansion massive des dépenses et du déficit. Là, le 10 ans anglais, c'est, il n'y a pas si longtemps, il est passé de 2,2 à 4,2. Donc il s'est pris 200 bips en deux mois, et le gouvernement n'a pas résisté à ça. Donc aujourd'hui, quel que soit si on a un gouvernement plus dans les extrêmes, s'il commence à appliquer un peu trop les politiques telles qu'elles ont été présentées, la dette n'y résistera pas. Et là, je pense qu'on se retrouvera comme Mitterrand en 1983. Il y a un moment, on dit, bon, est-ce qu'on fait encore partie de l'Europe? Est-ce qu'on joue le jeu ou est-ce que c'est l'aventure dans l'inconnu? Je pense qu'à ce stade, les marchés et l'Europe l'emporteront parce que c'est un choix raisonnable.
On voit que l'euro, d'ailleurs, remonte. Enfin, quand même, c'est un des signaux de ce début de semaine. Encore une fois, il reste 12 jours jusqu'aux législatives, donc les choses peuvent encore évoluer au gré des déclarations aussi des uns des autres. Et puis, l'entre-deux-tours est extrêmement incertain. Les rapports de force pour le deuxième... Enfin, très difficile d'anticiper, de dessiner l'avenir, là. C'est très, très compliqué. Mais l'euro, quand même, progresse à 1,0760 aujourd'hui. C'est peut-être un signal.
Il dépend aussi du dollar. Et on a, la semaine dernière, finalement, eu un dollar qui a profité de craintes de ralentissement économique en Europe et donc plus de baisse de taux. Alors qu'aux États-Unis, surtout en début de semaine, on disait la Fed avait un discours qui n'était pas très engageant sur les baisses de taux. Et puis, dès le lendemain, on a eu des chiffres d'inflation qui étaient bons. Aujourd'hui, on a des chiffres sur le retail, les ventes au détail, ainsi que la production industrielle, qui traduisent finalement une sorte de ralentissement. Oui. Mmh. Donc, ça veut dire aussi que les baisses de taux aux US se renforce en proportion. Mmh. Et en même temps, en Europe, on est un tout petit peu moins inquiet, tout est égal par ailleurs, par rapport aux excès. Mais non, c'est pas illogique que le dollar remonte, ainsi que les taux d'ailleurs.
On entre dans la dernière ligne droite, là, on est à un quart d'heure de la clôture. On accélère vers cette clôture. Vous m'entendez? Et notre CAC 40 est en hausse. En hausse de 0,8% à l'instant, le CAC. Téléperformance est en tête, plus de 3% de progression pour Téléperformance. Et puis on replie quand même le secteur du luxe. Cette étude que soulignait Étienne, qui l'a repéré, Étienne Braque, depuis la tour Euronext de Bain, consacrée au secteur du luxe. Et notamment les perspectives en Chine, désormais moins brillantes apparemment, en tout cas d'après cette étude. Le secteur du coup souffre. On a LVMH qui recule d'1%, Hermès qui recule de 0,3%. On a aussi L'Oréal d'ailleurs qui recule d'1,6%. En fait, à part Carrefour, les autres seules valeurs en baisse du CAC 40, ce sont des valeurs du luxe. Et puis on a aussi Carrefour donc qui recule avec peut-être à venir une grosse amende, pourquoi pas 200 millions d'euros à cause des rapports de Carrefour avec ses franchisés. On en reparlera tout à l'heure. Carrefour perd en ce moment un peu plus de 4%. En tout cas, la clôture s'annonce bien, elle s'annonce positive sur le CAC 40, et ça c'est bon. Après la poussée de fièvre de la semaine dernière, on a un peu remonté hier, on continue ce soir, on transforme l'essai et on récupère 0,8% supplémentaire à l'instant. L'écart de taux avec l'Allemagne, lui, s'est donc stabilisé. 69 points, c'est l'écart de taux actuel là, à l'instant, à 17h21, entre les 10 ans français et allemands. On en parle ce soir avec nos deux experts du club, Marie de Lessac pour Edmond Rothschild AM et Alain Dubrulle pour Claresco. Est-ce que ce qui vient de se passer quand même sur les actions françaises n'est pas une superbe publicité pour les ETF? Enfin, je ne sais pas, mais les valeurs ont énormément souffert. Je suis un investisseur français, je cherche à m'exposer le moins possible à l'aléa politique français, à l'aléa politique sur un seul pays. Je vais peut-être avoir plutôt tendance à privilégier le monde plutôt que la France. Est-ce que ce qui se passe n'est pas la meilleure des publicités pour la gestion passive et les ETF quelque part, Marie?
Moi, je pense que justement, dans ces environnements-là, la gestion active retrouve tout son sens. Hein. Parce que c'est vraiment dans ces environnements volatiles où il faut savoir faire de la sélection de valeurs, de sélectionner les secteurs qui seront plus ou moins impactés par ces événements politiques ou qui pourront en bénéficier, ou savoir profiter de baisses, peut-être comme on a eu la semaine dernière, avec un horizon d'investissement plus lointain pour revenir sur des valeurs qui étaient peut-être un peu plus chères. Mmh. Donc vraiment, c'est
les opportunités seront
voilà,
se recréer.
Les opportunités de la gestion active, elles sont vraiment là.
Ouais. Et vous en voyez, alors sans entrer dans le détail, mais voilà, vous vous dites effectivement que l'essentiel de la baisse est peut-être encore à venir, ou vous sentez qu'on arrive déjà sur des points peut-être à nouveau intéressants sur le CAC 40 qui a largement sous-performé les autres marchés européens depuis maintenant 10 jours. Alors les small cap encore plus, hein, ils ont perdu 11% en une semaine, les small cap.
Bah alors justement, sur ces thématiques-là, avant tous ces événements de la semaine dernière, on était sur un environnement où l'Europe reprenait des couleurs, où économiquement ça commençait à se porter un peu mieux. La BCE entame son cycle de baisse des taux et justement les small caps, les petites et moyennes valeurs, avaient largement sous-performé.
C'était leur moment, c'était
voilà,
le grand réveil.
Exactement.
Mais
sous-performé depuis
avant,
plusieurs années. Et donc c'était
mars,
le moment où elles commençaient à revenir. Et la performance.
Et patatras, la dissolution a tout cassé.
Et donc là, effectivement, on a eu un recul, un fort recul. Donc il y a peut-être des choses à trouver dans ces environnements-là, en disant que ça ne va pas forcément casser la croissance de la zone euro dans son entièreté. Et des investissements à trouver. Et même en dehors de la France, il y a des small cap qui garde de l'intérêt. Donc.
Oui, c'est-à-dire que la France pose question au marché, la dette française verra ses coûts de refinancement peut-être encore augmenter, on verra comment les taux obligataires évoluent, mais les entreprises françaises qui ont souffert sur le marché action, on a vu que sur le marché obligataire, ce n'était pas le cas. Les obligations corporate ont attiré pas mal de flux d'ailleurs depuis l'annonce de la dissolution. Comment est-ce que vous le regardez ça en tant qu'investisseur, Alain?
Alors, je réponds à votre question sur les ETF. Malheureusement, serais-je tenté de dire, les ETF et les futurs ont pesé sur les 10 derniers jours parce qu'il y a un ensemble de valeurs qui ont baissé juste parce qu'elles étaient françaises. Ça veut dire que c'est des gens qui balancent du futur CAC 40 ou des ETF France ou SBF 120 ou autres, parce que la baisse quasi homothétique d'un certain nombre de titres, en fait, ça veut dire que les gens vendent des paniers, donc ils vendent des ETF. C'est complètement indiscriminé. Donc je suis d'accord avec vous, ça laisse clairement des opportunités sur certaines valeurs. Par exemple, je pense à Trigano, qui est plutôt les camping-cars achetés par la classe moyenne, et d'ailleurs pas que française. Je ne suis pas persuadé que si les partis extrêmes ont des politiques plus consuméristes, je ne suis pas sûr que ça va fondamentalement effondrer
le Trigano. Vous citez Trigano parce que sur une semaine, le titre a perdu.
Il a beaucoup baissé.
15% quasiment.
Ouais.
Moins 15.
Dans leur chiffre d'affaires, d'ailleurs, prochainement, on va voir où on en est.
Oui.
Mais il y a effectivement, même vendredi dernier, AXA était à moins 5, alors que Allianz, le géant allemand à peu près sur la même caractéristique, est à moins 1. Donc là, il y en avait un qui était allemand, l'autre qui était français, clairement. Donc, et puis, beaucoup de groupes, notamment du CAC 40, sont assez internationaux. Donc, sauf si on commence à changer l'IS spécifiquement en France. Mais même si on change l'IS en France, il faut comprendre que Total, ils ne font pas de profit en France. Donc, pour les taxer à la source, ils pourraient taxer les dividendes. Mais là, ça serait toutes les entreprises. Enfin, c'est pas aussi simple que ça.
Et ce que vous dites pourrait être valable pour la plupart des entreprises cotées. 80% du chiffre d'affaires des entreprises cotées françaises se fait à l'international.
A fortiori sur le CAC 40.
A fortiori sur le CAC 40. Ouais. Ouais. Et donc, alors, il y a ce proverbe africain qu'on aime bien. Un arbre qui tombe, la France tombe pas, mais enfin, elle est quand même sous pression. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Derrière le cas français, il y a toute une forêt sur le marché prête peut-être à repousser. Là.
Oui, alors, par rapport à ça, il faut bien rappeler que bon, on espère que le stress français n'est qu'un petit blip qui va durer quelques semaines, bon, mais c'est pas sûr. Mais en revanche, il faut bien voir que depuis la dissolution, l'environnement global des actions s'est amélioré. La Fed n'a pas baissé ses taux, n'a pas été très constructive, mais le chiffre d'inflation aux États-Unis, en gros, tout confirme que les États-Unis sont en train de ralentir, mais gentiment, juste ce qu'il faut. D'ailleurs, la bourse américaine se porte très bien. Oui. Et au global, s'il n'y avait pas cette inquiétude française, on est dans un environnement, a priori, très favorable, exactement, globalement, pour les marchés actions.
Derrière l'arbre qui tombe, entendez, écoutez la forêt qui pousse, quand même. Effectivement, les indices américains sont sur des records. Encore tout à l'heure, le Nasdaq a battu un nouveau record. Là, il évolue autour de l'équilibre, mais voilà. 7 hausses d'affilée sur le Nasdaq. Bon, effectivement, les valeurs de croissance américaines qui continuent de tirer la cote, ouais, ça veut dire quoi, ça? Ça nous dit quoi de l'état des marchés, de l'économie, des perspectives, au-delà du cas français, effectivement, qui, à l'échelle mondiale, reste un confetti, quoi, malheureusement, pour nous.
Ça confirme ce qu'on voit depuis plusieurs mois, ouais, c'est-à-dire un ralentissement espéré et opportun aux États-Unis, un redémarrage modeste mais réel ailleurs, dans une sorte de convergence vers une croissance qu'on a parlé de soft landing, oui, avec des taux surtout qui, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais les taux qui commencent à baisser, tout ça c'est plutôt une conjonction assez favorable pour des marchés qui, en dehors de peut-être quelques valeurs de la tech, sont sur des valorisations assez faibles. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, aux États-Unis, le Russell 2000, les petites valeurs, il est en baisse depuis le début de l'année. Oui. Et le S&P, si on enlève une dizaine de valeurs, il a progressé que de quelques pourcents. Donc sur les entreprises classiques, si je puis dire, une amélioration de l'économie et surtout une baisse des taux laisse encore de bonnes perspectives.
Et ce qui est embêtant, c'est que la hausse de Wall Street, les records de Wall Street, ils tiennent sur quelques valeurs. C'est une étude donc de Sherwood qui nous dit que nous n'avions jamais connu une période de 4 semaines au cours de laquelle Wall Street a autant progressé avec autant de valeurs en baisse.
Oui, c'est le petit bémol que j'apporterais quand même à cette euphorie sur les marchés américains, c'est qu'elle tient sur, je dirais pas grand-chose, parce qu'il y a de la réalité derrière ces valeurs-là, et notamment de la croissance des profits, en tout cas pour certaines de ces valeurs. Mais cette concentration, elle est quand même très, très importante. Et on attend une diffusion sur le reste du marché, mais pour l'instant, qui n'arrive pas. Donc, ça apporte quand même un peu de fragilité techniquement à ces marchés dans leur globalité, notamment sur les États-Unis.
On est à quoi, 6 minutes là, de la clôture. Étienne nous appelle, la Tour Euronext en direct. 17h28, effectivement. Étienne, c'est vous qui nous ferez vivre cette clôture en Europe. Et sur le CAC 40, comment ça se présente ce soir à Paris?
Ça se présente plutôt bien avec un CAC 40 qui est quasiment sur les plus hauts niveaux de la séance, plus 0,74%, toujours au-delà des 7600 points, 7627 points, grâce notamment à certaines valeurs qui ont été malmenées la semaine dernière, à commencer notamment par les concessions, Vinci, plus 2%, Téléperformance comme hier est la plus forte hausse du CAC 40, plus 3%, ou encore Veolia qui prend un peu plus de 2%. Donc ça permet de masquer, entre guillemets, la baisse du secteur du luxe qui pèse mine de rien sur la tendance, avec des baisses de plus d'1% pour L'Oréal, LVMH ou encore Hermès.
Effectivement. Ce soir, le luxe pèse, on en parlera et vous nous ferez vivre cette clôture dans un instant. Juste d'un petit mot, il faut y privilégier les marchés européens plutôt que la France et plutôt Wall Street que les marchés européens, c'est comme ça qu'on peut dire les choses, ou
Marie? Nous, on est revenu à une neutralité en fait sur ces deux marchés. On était revenu
sur Wall Street et l'Europe.
Sur Wall Street et l'Europe. L'Europe pour les raisons politiques qui arrivent et les turbulences devant nous, probablement. Et les États-Unis plus pour des raisons techniques et de valorisation, en fait, et de concentration des performances.
Oui. Et sur l'Europe, on rappelle cette enquête mensuelle de Bank of America Securities qui montre que les investisseurs, les stratèges, les gérants, les économistes en Europe sont de moins en moins optimistes depuis l'annonce de la dissolution sur les perspectives de croissance. Ils ne sont plus que 43% à espérer une accélération de la croissance d'ici un an. 43%, alors qu'ils étaient 61% à l'espérer encore le mois dernier.